Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces mots qui sont dans une langue ancienne sont prononcés dans un film américain du 21e siècle. Et c'est une sorte de clin d'œil de la part des producteurs de Peter Jackson au fait que pour Tolkien, ce qui comptait, c'était l'aventure des mots. Et que cette langue ancienne, qui était l'ancêtre de sa propre langue maternelle, l'avait beaucoup influencé dans sa forme et dans son expression littéraire. Je ne sais pas si vous vous rappelez exactement à quel moment du film ces mots sont prononcés. Alors, elles sont prononcées par Éowyn. Et ça se passe dans le grand salle de son oncle Théoden. Et elle présente une coupe, une très belle coupe à Aragorn, qui est une coupe réelle pour boire, mais en même temps une coupe cérémoniale. Et au moment de présenter cette coupe à Aragorn, elle dit « Wais thu hal ». Salut, en fait, ou à ta santé, en quelque sorte. Mais pourquoi avoir mis ces mots en vieil anglais? Eh bien, toute cette scène, y compris les mots, sont calqués sur un poème vieil anglais, sont tirés directement d'un poème vieil anglais que Tolkien connaissait par cœur. Tout à l'heure, Alain Nevan a parlé d'Indiana Jones et de ses aventures. Vous n'avez pas besoin que je vous rappelle que Indiana Jones était archéologue. Donc, il était obligé non seulement de faire des cours devant des étudiants, mais aussi d'aller enquêter sur le terrain et de faire des fouilles. Indiana Jones vit des aventures fabuleuses en dehors de son université. Ce n'était pas le cas pour Tolkien. Tolkien avait une vie extrêmement banale, ordinaire, mais il avait une imagination extraordinaire, une imagination débordante. Et cette imagination trouvait surtout sa source fécondatrice dans les mots, parce que c'était les mots qui étaient sa première passion. Il disait lui-même dans le petit film qu'on vient de voir que dès son plus jeune âge, il faisait des expériences avec des mots, qu'il inventait de nouvelles langues. Et il jouait à ça quand il était petit. Et quand il était plus grand, il a consacré sa vie à l'étude des langues anciennes et à leur évolution. Et dans le cas de l'anglais, mais pas seulement de l'anglais, à la manière dont la langue moderne a évolué et est venue de ses racines anciennes. Il avait une vie banale d'un universitaire, c'est-à-dire un homme qui faisait ses cours, qui organisait des examens, qui corrigeait des copies d'examens. Là encore, dans le film, il disait que un jour, c'était devant un tas de copies absolument ennuyeux qu'il s'est trouvé devant une copie blanche et il a remercié le ciel. Il a pris cette copie blanche et il a écrit dessus « In a hole in the ground, there lived a hobbit. » Dans un trou vivait un hobbit. Et d'après lui, en tout cas, si on croit un auteur, on ne peut pas toujours croire ce que disent les auteurs de l'origine de leurs propres œuvres, mais il disait que à ce moment-là, il avait donné naissance à l'idée du hobbit sur la copie blanche d'un étudiant. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont déjà dans l'enseignement, d'autres y entreront. Et pour ceux qui ne sont pas dans cette merveilleuse profession, je vous assure que la correction des copies est vraiment une chose extrêmement ennuyeuse. Et quand on tombe sur quelque chose un petit peu original, on est absolument ravi. Et quand on tombe sur une copie blanche, on est doublement ravi parce que hop, c'est tout de suite expédié. Rassurez-vous, on a aussi beaucoup de copies intéressantes et beaucoup d'étudiants intéressants. Et j'ai l'honneur de dire que certains de mes étudiants sont présents aujourd'hui, des étudiants de maîtrise, de DEA, de doctorat. Je suis absolument ravi de voir qu'ils sont là. Et certains d'entre eux travaillent directement sur les œuvres de Tolkien et sur les racines, sur les sources, sur tout ce qui concerne la genèse de l'œuvre. Et je suis sûr que certains de ces étudiants prendront bien inspiration aujourd'hui de ce que nous avons eu le plaisir d'entendre de la part de chacun des intervenants. Alors, Tolkien avait commencé par créer une langue, l'elfique. Il jouait à ça quand il était adolescent. Et c'était la langue qui était à l'origine de l'histoire, et pas le contraire. On pourrait imaginer qu'il avait construit une grande fantaisie ou mythologie, et qu'une fois que l'histoire était bien claire dans sa tête, il avait inventé des langues qui pouvaient être parlées par des elfes ou par des humains ou par des nains. Non, c'était le contraire. Il dit lui-même dans ses lettres qu'il avait d'abord inventé l'elfique. Il était fasciné par les langues et il voulait inventer lui-même de nouvelles langues et examiner la manière dont les langues pouvaient évoluer. Déjà, il le faisait dans sa profession. Il connaissait très bien le latin, le grec, le vieil anglais, le vieux norrois, le vieux haut-allemand. Il était spécialiste des langues germaniques. Et il était absolument abasourdi de découvrir un jour des langues qui n'étaient pas d'origine indo-européenne. Et les deux langues qui l'ont le plus attiré quand il était jeune homme, c'était le finnois et le gallois. Le finnois parlé en Finlande et le gallois parlé en pays de Galles, à quelques kilomètres de là où il avait passé toute sa jeunesse. Et le finnois et le gallois l'ont rempli d'émerveillement. Il était frappé par leur beauté et par la musicalité de ces langues, par la résonance de ces langues. Et ce qui le frappait en plus, c'était leur étrangeté. Le finnois n'est pas une langue indo-européenne, c'est-à-dire que ce n'est pas une langue proche des nôtres, de la plupart des autres langues modernes d'Europe. Le gallois, lui, est une langue indo-européenne, mais c'est une langue celtique, c'est-à-dire pas une langue proche des langues germaniques, comme l'anglais, parce que l'anglais, surtout le vieil anglais, était une langue germanique. Le vieil anglais parlé avant la conquête normande était très proche du vieux haut-allemand ou du vieux saxon. Si vous lisiez des textes écrits en vieil anglais, et justement, nous avons entendu parler tout à l'heure de l'histoire de la Terre du Milieu et du fait que Tolkien avait rédigé lui-même, et c'est publié là dans l'histoire de la Terre du Milieu, il a rédigé lui-même des textes en vieil anglais, la langue d'il y a 1000 ans. C'est-à-dire qu'il s'est pris à composer des textes dans une langue ancienne. Mais il a dépassé ça parce qu'il voulait inventer de nouvelles langues. Il savait très bien comment fonctionnait une langue. Il savait très bien que toute langue est en constante évolution. Que ce soit le français, l'allemand, l'italien, l'anglais. Toute langue vivante est en évolution constante, par définition. Si elle n'était pas en évolution, elle serait morte. Donc attention, il est impossible de figer une langue sans qu'elle meure. Et il avait étudié de nombreuses formes de langues anciennes, il avait suivi leur évolution phonétique, il savait très bien qu'une langue change d'abord en ce qui concerne les sons, la prononciation, la phonétique, les aspects graphiques, l'écriture, est quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Et comme il a construit une langue elfique dans son adolescence, en tout cas il a commencé à travailler là-dessus, il s'est posé quel type de être, je ne dis pas personne, quel type de être pouvait parler cette langue. Et dans cette langue, il a mis des racines galloises et des racines finnoises, les deux langues qui le fascinaient. Et il a inventé la notion des elfes, les premiers nés des êtres intelligents dans sa mythologie, comme les êtres qui parlaient cette langue qu'il avait inventée. Donc, la langue vient avant le roman. C'est ça qui est absolument fabuleux. Et il a passé des années jusqu'à sa mort. Il a commencé, si j'ai bien compris ce que j'ai lu par les spécialistes, il a commencé à travailler sur cette langue et les elfes et le Silmarillion dans l'hiver de 1916-1917. Et à sa mort en 1973, comme nous venons d'entendre, il n'avait toujours pas fini. Il n'était toujours pas prêt à publier parce qu'il avait passé, combien ça fait, 60 ans, à laisser tout cela prendre forme dans son esprit et dans son écriture, mais il n'était jamais satisfait, il n'était jamais content de ce qu'il avait fait. C'était une des raisons pour lesquelles il ne se sentait pas prêt à publier le Silmarillion. Et à sa mort, ce n'était toujours pas fini. Alors, comment ça se fait qu'il était prêt à publier Bilbo le Hobbit et qu'il était prêt à publier Le Seigneur des Anneaux? C'est parce que ces œuvres étaient une sorte de sous-division ou sous-aspect du Silmarillion. Dans la chronologie de la publication, nous savons que Le Hobbit a été publié en 1937, Le Seigneur des Anneaux en 1954-55 et Le Silmarillion après sa mort en 1977. Donc, on peut imaginer que les choses ont été rédigées dans l'ordre de leur publication. Et en fait, le contraire est vrai. Le Silmarillion, qui n'était même pas terminé à sa mort, était la première chose qu'il avait commencé à rédiger dans cette mythologie et qu'il n'a jamais fini. Mais entre-temps, il avait réussi à terminer certains autres morceaux, et le morceau de choix, c'est Le Seigneur des Anneaux, qu'il avait réussi à boucler en quelque sorte. Donc, je pars du principe que s'il n'avait pas été fasciné par les langues et s'il ne s'était pas fait spécialiste des langues, philologue pour employer le terme technique, quelqu'un qui est spécialiste de l'histoire des langues, il n'aurait jamais produit ces œuvres que nous aimons tellement, ces œuvres de fiction. Mais sa vie quotidienne était assez banale. Un professeur à Oxford, un homme marié avec une famille nombreuse, il avait de constants soucis d'argent, il voulait publier justement pour gagner un peu plus d'argent, pour payer les études de ses enfants, chacun peut comprendre ça. Et il était même critiqué par ses collègues à Oxford par le fait de publier des œuvres de fiction. Parce que la plupart de ses collègues voyaient en lui un historien des langues, un spécialiste du Moyen-Âge, spécialiste de la littérature médiévale. Et bien sûr, il a publié dans ce domaine. Il a publié des livres, il a publié des articles, il a fait des éditions de textes anciens. Et ses collègues le critiquaient de ne pas publier assez dans ce domaine, parce que c'était un homme brillant, c'était un savant. Il aurait pu préparer d'autres textes pour la publication, d'autres éditions de manuscrits. Il aurait pu écrire plus sur les langues réelles. Et c'était un incompris ou un mal compris. On se demandait pourquoi il perdait son temps, entre guillemets, à créer cette histoire de la Terre du Milieu ou son Hobbit. Mais lui ne pouvait pas se défendre, en quelque sorte. Pour lui, c'était une passion. Il savait très bien que ses collègues n'approuvaient pas tout le temps qu'il perdait là-dedans. Mais pour lui, c'était plus qu'une passion, c'était aussi une sorte de création. Et il croyait fermement que quand un auteur crée une œuvre, il participe à la création divine, la création qui continue dans notre monde. Un peu comme les parents qui donnent naissance à un enfant participent à la création continue, voulu par Dieu. Et il voyait dans des œuvres écrites par un auteur une forme de participation à cette création. Pour lui, je suis persuadé qu'il avait un sentiment de mission divine quand il écrivait Le Seigneur des Anneaux et quand il donnait forme à ces langues qu'il avait construites et forme à ces peuples qu'il avait imaginés comme parlant ces langues. Lui voyait en cela une sorte de mission divine qui participait à la création, et c'est pour ça que c'était tellement important pour lui que chaque élément tienne. Comme disait Anne Besson tout à l'heure, il fallait que sa sous-création soit logique, que chaque détail tienne. Et il a passé, on peut dire toute sa vie, à travailler sur ces détails pour être sûr que tout était logique et que tout tenait. Et en fait, c'était trop pour lui parce qu'il n'est jamais arrivé à la fin à donner une forme satisfaisante à ses yeux à l'histoire de la Terre du Milieu. Il était en gros satisfait du Seigneur des Anneaux. Il n'a fait que quelques petites modifications pour la deuxième édition. Mais il reconnaissait lui-même que Le Seigneur des Anneaux n'était pas exactement une séquelle au Hobbit, mais c'était une séquelle au Silmarillion, qui n'était même pas publié. Mais c'était quelque chose qui sortait du Silmarillion inédit. J'aimerais attirer l'attention, dans les quelques minutes qui me restent, sur une œuvre médiévale qui l'avait particulièrement frappé, marqué. Et ça, c'est Beowulf. Beowulf, ça s'écrit, pour ceux que vous connaissez pas l'œuvre, B-E-O-W-U-L-F. Donc, ça s'écrit, comment ça se dit ? Beowulf. Et Beowulf est le nom d'un homme, un héros germanique. Et il faut dire tout de suite que ce poème est le plus grand poème et le plus important poème de la première partie du Moyen-Âge dans toutes les langues germaniques. Ça dépasse en longueur et en importance tout ce que nous avons dans les autres langues germaniques. Ce poème a été rédigé en vieil anglais, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, l'ancêtre de la langue moderne. Et il existe dans un manuscrit unique. Et si ce manuscrit, comme beaucoup d'autres, n'avait pas échappé au hasard du temps et aux flammes, on n'aurait jamais même connu son existence, parce qu'il existe dans un manuscrit unique qui a été redécouvert au XVIIIe siècle, publié au XIXe, traduit au XIXe. Maintenant, on a beaucoup de traductions dans diverses langues de ce très grand poème. Bien sûr, Tolkien n'avait pas besoin lui-même de le lire en traduction, parce que comme il comprenait très très bien le vieil anglais, il était capable de lire le texte ancien et de comprendre toutes ses nuances. Mais il reconnaissait que des traductions étaient nécessaires. Il écrivait lui-même qu'on pouvait très bien accepter des traductions comme aide à la compréhension d'un texte, mais bien sûr, il voulait que les gens dépassent les traductions et qu'ils arrivent à lire les textes originaux. Ce que lui pouvait faire pour certaines langues, mais pas pour toutes les langues évidemment, mais pour les langues dans lesquelles il s'était spécialisé. Alors, Beowulf est une œuvre absolument merveilleuse. Il existe des traductions françaises, je dis en passant, donc vous pouvez vous le procurer. Pas très facilement, je reconnais, mais quand même. Je cite le nom de mon collègue André Crépin. André Crépin, ancien professeur de la Sorbonne et aujourd'hui membre de l'Institut de France, il a publié une traduction dans ce petit volume « Poème héroïque vieil anglais ». Alors, je n'aurai pas le temps de le développer aujourd'hui, mais je voudrais vous assurer que dans de nombreux aspects, dans le détail, dans la forme. Beowulf est derrière le Seigneur des Anneaux. Beowulf est une histoire de lutte entre le bien et le mal. Le bien est représenté par le héros Beowulf. Le mal est représenté par des monstres, des dragons et d'autres formes de monstres. Et en gros, le poème est divisé en deux parties, la jeunesse et la vieillesse. Quand Beowulf est un jeune homme, il réussit à tuer des monstres qui sont en train de menacer l'existence du royaume du Danemark. Et puis dans sa vieillesse, quand c'est un vieux roi, un très très vieux roi, il sauve son peuple en tuant un dragon. Et la mort du dragon dans Beowulf et toute la scène concernant le dragon est reprise exactement d'abord dans Le Hobbit. Vous vous rappelez quand Bilbo entre dans la caverne de Smaug et qu'il vole une coupe sur le trésor du dragon. Tout ça, c'est exactement pris mot pour mot, quasiment, enfin calqué en tout cas, dans Beowulf. Et puis la mort du dragon, ça on le retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, sous deux formes. D'abord la mort de Shelob, même si elle ne meurt pas exactement dans le livre, mais elle reçoit une blessure profonde. On n'est pas absolument certain qu'elle soit fatale, mais en tout cas, elle est extrêmement profonde et elle fait chasser l'araignée. Et donc, cette lutte entre l'araignée Shelob et les deux hobbits, Frodo et Sam, ça s'est calqué sur la mort du dragon sous la double attaque de Beowulf et son jeune cousin Wiglaf. Et on trouve la même chose dans la mort du roi des Nazgûl sous les mains de Eowyn et Merry. C'est vrai, je confonds toujours Merry et Pippin. Bon, je crois qu'il faudrait que je m'arrête là parce que j'aimerais vous parler beaucoup plus. Et je n'ai pas du tout essayé de lire ce que j'avais préparé. De toute façon, c'est en anglais, donc ce serait impossible de traduire tout rapidement. Mais ce que je voudrais laisser dans votre esprit, c'est d'abord la passion des langues anciennes qui animait Tolkien. Deuxièmement, l'influence de la littérature ancienne qu'il aimait beaucoup et qu'il connaissait par cœur, et dont on retrouve des éléments, je pourrais vous donner beaucoup plus d'exemples, dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Silmarillion. Voilà donc, je crois qu'il faut que je m'arrête là, sinon... Merci.
Merci Léo Carruthers, qui a d'ailleurs... qui nous a aidé lors de la parution de Faëry et autres textes, en revoyant certains textes, parce qu'on avait un peu de mal avec l'anglais médiéval. Alors, avant de clore l'après-midi par la discussion entre nos deux auteurs de fantasy, les deux auteurs de fantasy que nous avons invités, la parole est à vous pour des questions, soit sur cette intervention, soit que vous n'avez pas pu encore poser. C'est à vous. Il y a devant. Le micro arrive.
Merci. Je me demandais si ce n'était pas la mort de la mère de Grindel qui pouvait avoir inspiré l'épisode de
enfin. Oui, mais vous avez raison. Je n'ai pas mentionné tous les monstres de Beowulf. Il y a Grendel, la mère de Grendel qui sont tués tous les deux quand il est jeune homme. Et puis il y a le dragon. Quand il est vieil homme.
Mais justement, la mère de Grendel, comme c'est une espèce d'hydre, genre pieuvre peut-être à huit pattes, est-ce que ça pourrait être lié à l'araignée ? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de symbolisme qui
pourrait
être...
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ce que Tolkien a fait n'était pas de prendre tous les éléments du poème et de les transposer directement, tels quels, dans son œuvre. Mais il a pris différents éléments qu'il a reposés à différents endroits. Donc, il est vrai ce que vous dites concernant la mère de Grendel. On retrouve certains de ses aspects dans l'araignée. Mais en ce qui concerne les deux hommes qui tuent le monstre, là, c'est plutôt calqué sur le dragon.
On va peut-être en fait passer à la dernière intervention maintenant, si ça ne vous dérange pas, pour pas trop prendre de retard. Il y avait une question là-bas, vous pourrez la poser à la fin. Tout simplement parce que voilà, il est 6h moins le quart et on aimerait bien ne pas trop déborder pour vous. Voilà, et ceux qui veulent, après, on est toujours prêt à discuter, bien sûr, après la fin d'après-midi. Donc en fait, une discussion entre Fabrice Collin et Henri Lovenbruck qui ont accepté notre invitation et nous les en remercions parce qu'ils avaient des engagements ailleurs. Henri était au Festival de Gérardmer, par exemple. Et leur participation a paru d'autant plus intéressante que ce sont des auteurs qui s'illustrent dans des genres différents. Donc vous me direz si je me trompe, mais à la fois dans la littérature générale et dans des genres comme par exemple le policier ou la fantaisie ou la littérature de jeunesse, les pièces radiophoniques pour l'un et pour l'autre. Donc maintenant je suis un petit peu loin de la place où j'étais tout à l'heure, mais j'ai apporté le premier tome de la trilogie d'Henri Lovenbruck, La Louve et l'Enfant, qui semblait avoir un certain entretien, un dialogue avec Tolkien de sa manière, merci, et j'ai apporté également une des dernières parutions de Fabrice Collin qui est difficile à suivre tant il écrit, Dream Americana, donc chez Millénaire j'ai lu, dans lequel l'inventeur d'un monde se met un jour à sécher dans son invention fictionnelle et cet inventeur de monde ressemble un petit peu à Tolkien. Donc vous avez d'ailleurs récemment publié un texte dans Méditation sur la Terre du Milieu en expliquant quel était votre rapport à Tolkien. Donc la parole, prenez librement la parole tous les deux, l'un après l'autre, puis après ça va se faire comme ça, une table ronde, pour expliquer un petit peu quel est votre rapport, vous en tant qu'auteur, à une personne qui est un petit peu le modèle de la fantaisie pour nous. Voilà. Et je précise que cet entretien ne va pas durer les trois quarts d'heure annoncés, mais moins pour un petit peu condenser les choses, rassurez-vous.
On va faire par ordre alphabétique, donc c'est Collin, Lovenbruck, c'est toi.
L'influence de Tolkien, bon, pour un auteur, moi j'écris des livres de fantasy notamment, mais pas seulement. Il est clair qu'en tant qu'auteur de fantasy, on est forcément un petit peu écrasé par cette influence qui paraît totalement indépassable, que ce soit en termes d'intensité, de profondeur, de taille. Enfin, moi je ne me vois pas du tout consacrer la majeure partie de ma vie à l'écriture et à la conception d'un monde de fantasy. Donc je dirais en tant qu'auteur de fantasy, c'est Tolkien, c'est bien parce que ça permet c'est un étalon en fait, il y a un maître étalon, on sait ce qu'on ne pourra jamais faire, c'est quelque chose de complètement indépassable pour moi, c'est de l'ordre de l'utopie, donc ça permet de rester tout à fait modeste, de se consacrer à nos petits cycles personnels, on s'amuse bien quand même, hein, je vous rassure, mais... C'est quelque chose de, pour moi, de gigantesque. Et surtout quand on pense, comme ça a été dit, que Le Seigneur des Anneaux n'est que la partie immergée de l'iceberg. Moi, j'ai abordé dans le roman Dream Americana la figure de Tolkien en filigrane. Je suis passionné par le processus créatif en général et notamment en littérature. Je tourne pas mal autour de ça dans certains livres. Dream Americana, ça raconte l'histoire d'un auteur qui a commis une vingtaine de livres dans le genre steampunk, bon, qui est un genre qui n'est pas exactement le même que la fantasy, mais enfin, ça ressort quand même aux littératures de l'imaginaire. Donc c'est quelqu'un qui se trouve à la tête d'une œuvre considérable, et puis tout d'un coup, il y a une espèce de panne d'inspiration, et ce personnage bascule dans une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il en vient à penser que peut-être le monde qu'il a décrit depuis 20 ans est réel, en tout cas aussi réel que le nôtre, et que des personnages issus de ce monde pourraient arriver dans le nôtre pour l'empêcher de continuer à écrire ou l'enlever, etc. Il y a une réflexion sur le processus créatif et sur Tolkien, qui est d'ailleurs cité dans le bouquin. Ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire que, en gros, ce que je dis, c'est que quelqu'un, je pense que Tolkien a eu, non seulement a été doté d'une imagination extraordinaire, mais en plus avait, je dirais, la force intellectuelle et morale suffisante pour dompter un petit peu le démon et arriver à s'y retrouver dans un tel foisonnement d'imagination. Ce que je veux dire, c'est que je pense que d'autres, à sa place, auraient pu sombrer dans la folie. C'est-à-dire que quand on conçoit, on élabore comme ça sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, un monde au point d'inventer pour lui des langues, une mythologie, une histoire qui court sur des siècles et des siècles. Quand on travaille sur ce monde jour après jour pendant des années, des décennies, il peut arriver que ce monde nous apparaisse plus réel que le monde dans lequel on vit. Et d'une certaine façon, il l'est, parce que mentalement, je pense qu'il passait plus de temps dans la terre du milieu que dans son propre monde. Donc, voilà, l'influence de Tolkien, elle est double. Il y a évidemment l'influence en tant qu'auteur de fantasy, je vous le dis, quelque chose d'indépassable. Et puis en tant que modèle de démiurge, de créateur littéraire, c'est aussi quelque chose qui est assez fascinant.
C'est à mon tour.
Ouais.
Alors moi je voulais d'abord, simplement tout à l'heure, je voulais juste dire au sujet de Beowulf que c'était pas uniquement... Le plus grand et le plus important des poèmes en vieil anglais, c'est aussi le plus mauvais film de Christophe Lambert. Du moins, c'est ce que...
avec plusieurs étudiants, nous sommes allés voir le film de Christophe Lambert, on a bien ri.
En tout cas, je pensais que c'était le plus mauvais film de Christophe Lambert jusqu'à Vercingétorix. Alors... Fabrice et moi appartenons à la même génération d'écrivains qui ont commencé en fait par l'imaginaire en France. Et donc on a à peu près le même parcours, même si au bout du compte on ne fait pas tout à fait les mêmes livres, parce que lui il sait écrire. Mais on a à peu près le même parcours. Moi, j'ai eu trois grands chocs dans ma vie. D'abord en 77, j'avais 5 ans. Et mon papa m'emmène à Londres voir un film. En 77, je pense que vous vous doutez ce que c'était. C'était pas Le Seigneur des Anneaux. C'était La Guerre des Étoiles. J'avais 5 ans et je peux vous dire qu'à 5 ans, La Guerre des Étoiles, ça fait bizarre. On découvre un univers hallucinant et avec une richesse visuelle et surtout tout un univers. On parle souvent de livre-univers quand on parle du Seigneur des Anneaux. Mais bon, c'est bien cet ensemble... de mondes, de planètes différentes, de cultures différentes qu'on retrouvait aussi dans La Guerre des Étoiles. Et puis, quelques années plus tard, j'ai lu évidemment Le Seigneur des Anneaux, deuxième gros choc, monstrueux. Je raconte dans Méditation comment ça m'est arrivé. C'était pendant des vacances de sport d'hiver et je ne suis pas allé skier tellement j'étais scotché sur le livre. Et puis, troisième choc, Dune de Frank Herbert. Et je crois que ces trois œuvres-là partagent un petit peu cette notion de qu'un auteur développe un univers très complexe dans lequel il fait jouer des personnages. Moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu, peut-être pas consciemment dès le début, mais dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que ce roman qui s'inscrit vraiment dans la fantasy du XXe siècle a quelque chose d'assez différent de beaucoup d'autres romans de fantasy. C'est-à-dire que la fantasy est un genre qui, très souvent, est très conservateur. Très, très souvent... En gros, l'histoire, c'est qu'il y a un ordre établi qui risque de disparaître et il faut absolument conserver cet ordre établi. On a un peu ça dans Le Seigneur des Anneaux, mais pas tout à fait. Parce qu'à la fin du Seigneur des Anneaux, on sait qu'on passe dans un nouvel âge. Et malgré toute la nostalgie qu'on a de voir partir les elfes, on sait que quoi qu'il arrive, on rentre dans un nouvel âge. Et quand tout à l'heure vous disiez que ça se passe à ce que Tolkien appelle le troisième âge et que nous on serait au septième âge aujourd'hui, ça prouve bien qu'il sait qu'on ne peut pas arrêter l'histoire, que l'histoire doit continuer, qu'il doit y avoir du progrès. Et moi c'est cette fantaisie-là qui m'intéresse. J'ai toujours, quand j'ai décidé de faire de la fantaisie, je me suis dit, parce que je suis un peu provocateur, je me suis dit moi je veux pas faire une fantaisie conservatrice, j'ai envie de faire une fantaisie du progrès. Qui montre que, oui, l'âge ancien doit mourir, il y a de nouveaux âges qui doivent arriver. Alors, c'est un peu ce qui m'a personnellement moins marqué dans Tolkien, même si, comme ça, à première vue, il y a des côtés très conservateurs aussi chez Tolkien, bien sûr. On pourrait parler, par exemple, de la place des femmes dans Tolkien, qui n'est pas... bon. Mais il y a un personnage dont, encore une fois, je parle dans Méditation, qui est très intéressant parce qu'on parle toujours de cette lutte entre le bien et le mal, dans la fantaisie, et évidemment, chez le maître de la fantaisie du XXe siècle, c'est chez Tolkien, on parle toujours de ce combat entre le bien et le mal, et pourtant, il y a un personnage qui est Tom Bombadil, qui s'extrait complètement de cette lutte entre le bien et le mal, ce qui montre que le monde de Tolkien n'est pas si manichéen que ça, parce qu'on peut s'en extraire. Et d'ailleurs, c'est le seul, enfin, c'est ce personnage, sur ce personnage-là, l'anneau n'a aucun pouvoir. Et bon, cette idée-là aussi me plaît beaucoup, me parle beaucoup, et c'est un petit peu cette chose-là que j'essaie de développer dans mes romans. Je voudrais revenir aussi sur la question que posait une jeune fille tout à l'heure là-bas, en demandant si, à travers l'imaginaire, Tolkien ne parlait pas finalement du réel. Si, évidemment, il y a une anecdote que Alain et moi nous amusons souvent à raconter. Alain, si je ne m'abuse, a publié. Est-ce que c'est. Oui ? Non. Non, pas du tout. Alain a traduit un texte qui avait été écrit par Margaret Weis, qui est une écrivaine de fantasy américaine qui a publié une anthologie de plusieurs auteurs. Et un jour, elle était dans l'avion, elle était en train d'écrire la préface de cette anthologie, et puis il y a quelqu'un à côté d'elle qu'elle ne connaît pas, un autre voyageur, qui lui dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes écrivain ?» Alors elle dit « Oui, enfin, pas tout à fait, là je suis anthologiste, mais parfois je suis aussi écrivain. Et alors, qu'est-ce que vous faites ?»« Ah, bah, je fais de la fantasy. » « Ah, mais qu'est-ce que c'est la fantasy ?»« Bah, vous savez bien, comme le Seigneur des Anneaux. » Alors la dame à côté de lui dit « Oh, c'est merveilleux, ah oui, les elfes, les nains, tout ça, c'est incroyable, mais où allez-vous chercher tout ça, cette imagination débordante ?» Et Margaret Weis lui répond « C'est vrai, des races qui se détestent les unes les autres, des guerres de religion, des guerres entre des peuples, je me demande bien où je vais chercher tout ça. » Et c'est un peu... moi, je vais même encore plus loin, je crois, en tout cas moi, ce que j'ai... Si je ne fais pas que de la fantaisie, mais quand je fais de la fantaisie, ce qui m'intéresse, c'est que non seulement, évidemment, on peut parler du réel, mais on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire sauter certains tabous. Moi, il y a par exemple un sujet dont j'aime beaucoup parler entre amis, c'est l'Israël et la Palestine. En public, j'ai beaucoup plus de mal à en parler parce que c'est quelque chose qui touche les gens d'une manière tellement émotionnelle qu'on a toujours des réactions très très vives d'un côté comme de l'autre. En fantaisie, vous pouvez parler d'Israël et la Palestine en les appelant autrement et obtenir de la part de votre lecteur un regard nouveau sur ces problèmes-là qu'on rencontre nous dans notre monde, un regard peut-être plus objectif, parce que détaché de tous nos sentiments personnels, tous les a priori qu'on peut avoir sur ce genre de problématiques. Donc oui, c'est un moyen évidemment de traiter du réel, peut-être même beaucoup plus pratique qu'une littérature dite générale, dite blanche, c'est-à-dire qui n'est pas une littérature de genre. Voilà.
D'accord. J'allais dire. Donc moi, je ne suis pas du tout un lecteur de fantasy, hein, je l'ai dit. Et lorsque j'ai lu le premier tome de la Moira, donc dites-moi si je me trompe, quand je voyais par exemple cet entrelacement d'histoires, la présence de langues inventées, la profondeur historique avec des références à des temps anciens, je pense à une épée qui a été forgée au premier âge, etc. Les personnages des Érylim qui me faisaient un peu penser aux Nazgûl, l'importance de la mort ou la caractérisation du personnage central, Aléa, qui ressemble un petit peu à Frodo, je me demandais dans quelle mesure vous n'étiez pas en train de jouer avec la mémoire du lecteur qui se dit tiens, là c'est un hommage à Tolkien, là c'est etc. Donc vous avez dit plus profondément, il y a le schéma de cet avènement d'un autre âge, et vous avez raison, dans Le Seigneur des Anneaux, ça n'est pas du tout passéiste, ce n'est pas un regard sur le passé, c'est une transformation et les hommes vont jouer un rôle actif. Mais donc ça voudrait dire que dans la Moira, derrière ces petits panneaux qui clignotent et qui disent attention, ça c'est du Tolkien, il y aurait quelque chose au niveau structurel qui serait plus fondamentalement tolkienien, on peut dire ça comme ça ?
Peut-être, oui. En tout cas, c'est sûr. Enfin, comme disait tout à l'heure Fabrice, c'est très très difficile de se débarrasser de l'ombre de Tolkien. Mm-hmm. Surtout, La Moira, c'était mon premier cycle de fantasy. Mm-hmm. Je suis en train d'en écrire un deuxième dont le premier tome vient de sortir. Ça sera mon dernier cycle de fantasy. Je dis ça, il y a mon éditeur à côté, alors il me donne des coups de pied sous la table. Mais justement...
Quoi ?
Justement, dans ce deuxième tome, j'ai essayé de me débarrasser le plus possible de l'ombre, de cette ombre de Tolkien, et je me suis dit... Cette fois-ci, je vais faire la même chose que dans La Moira. J'ai toujours le même message à faire passer, j'ai toujours les mêmes choses à dire, et je sais qu'il faut les dire plusieurs fois pour qu'elles soient entendues. Mais cette fois-ci, je vais essayer au maximum de me débarrasser de cette influence qui est forcément énorme, parce que c'est d'un magnétisme hallucinant, l'œuvre de Tolkien. J'ai inscrit ce cycle de fantasy en France. J'ai pris une France imaginaire qui est très inspirée de la France du XIIe siècle, où je me suis amusé à travestir certains personnages. Il y a une femme qui s'appelle Hélène de Kyenne et qui ressemble étrangement à Aliénor d'Aquitaine. Enfin bon, je me suis un peu amusé avec les personnages de notre histoire de France. Et y compris au niveau mythologique et légendaire, je me suis exclusivement inspiré des légendes françaises et du folklore français, en me disant, là au moins, Tolkien, il n'y est pas allé. D'accord ? Donc on ne dira pas... ce qui est incroyable, c'est que La Moira, qui est donc mon premier tome, mon premier cycle de fantasy, fait référence aux Moires, évidemment. D'accord ? Donc ils sont les déesses du destin, les figures du destin. Et combien de lecteurs m'ont dit, ah ouais, La Moira, c'est la Moiria de Tolkien. Donc son influence, elle va même au-delà de ce que je croyais. Mais c'est vrai qu'on est obligé... Enfin bon, j'essaye maintenant un petit peu de me débarrasser de ça. Mais finalement, je dis exactement les mêmes choses. Et oui, ce message qu'il y a derrière, qui est un message... c'est un peu prétentieux de dire ça, mais plutôt humaniste, je crois que j'en ai hérité de Tolkien en partie. Ouais.
Et à propos toujours des questions entre l'apparence et un plan plus profond, dans le texte d'Americana, vous dites, Fabrice, il est question un peu de Tolkien, mais en même temps, c'est peut-être plus sur le plan de la démarche, parce que Hadès Schefflin a des visions, il se promène dans le monde qu'il a inventé, dont il a présenté différents cycles, de même que Tolkien jouait toujours avec son correspondant dans des lettres ou avec son interlocuteur, d'où la stupéfaction du biographe Carpenter. On ne savait jamais s'il croyait vraiment à ce qu'il disait, s'il jouait avec les nerfs de son interlocuteur, s'il se promenait vraiment en terre du milieu, puisque combien de fois dans ses lettres on trouve des références du style « Faramir est juste apparu comme ça, il est sorti des bois de l'Istylienne » ou alors « Vous me posez une question, attendez que je regarde... que je regarde ce qui s'est vraiment passé, etc. Et donc, ce serait ça la ressemblance profonde entre Schefflin et Tolkien ?
Oui, oui, sauf que Schefflin s'en sort beaucoup moins bien. Mais c'est vrai que dans Tolkien, il y a une espèce de qualité hypnotique, je veux dire, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand on lit, quand on a 15 ans, on n'arrive absolument pas à s'en détacher. On en oublie même de ce qui est. Je veux dire, on est à un moment dans quelque chose, dans une... pris dans une spirale. Enfin, moi, je lisais l'autre jour des bouquins sur l'hypnose, bon, pour un tout autre projet, et ça me rappelait, il y a quelque chose qui rappelle le processus de lecture ultime, c'est-à-dire quand on est complètement capté par le livre. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur ce sujet, on est absorbé par le livre, on va quasiment dedans. Donc quand ça fait ça à un lecteur, on peut imaginer ce que ça fait à un auteur, c'est-à-dire qu'à un moment il peut perdre un petit peu pied, et à force d'être immergé constamment dans un monde qu'il a lui-même créé, il se dit mais en quoi ce monde-là finalement est pas plus réel que la Terre. Bon. Moi, je joue là-dessus, sur cette ambiguïté, sur la question de réalité, qui est une de mes marottes. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la réalité ? Je veux dire, si on écrit un bouquin pendant 30 ans et qu'on décrit de A à Z, qu'on s'attache, comme on disait tout à l'heure, au moindre détail, et qu'on y vit, je veux dire, dans l'esprit... Ok, on peut dire que c'est pas la réalité, mais enfin, c'est pas moins la réalité que, par exemple, l'Amérique du Sud, parce que je suis jamais allé en Amérique du Sud, je sais pas comment c'est, en fait, je sais ce qu'on m'en dit, je lis des bouquins, je regarde des émissions, mais il n'y a pas plus de réalité pour moi au sens métaphysique. Quoi.
Donc on va faire comme pour les autres interventions, la parole est à nouveau à la salle pour des questions, ou des questions qui n'ont pas pu être posées tout à l'heure, et nous en excusons. Donc sur... si parmi vous, il y a des lecteurs de fantasy, vous connaissez sans doute les textes de Fabrice Collin et Henri Leeuwenbruck. Allez-y, si vous avez encore des questions en réserve.
Donc, bonsoir. C'était par rapport à tout ce que vous avez dit sur les traductions et sur les versions originales. Je voulais savoir ce que vous pensiez des traductions des noms propres. Et si ça ne tuait pas un peu la magie de toute l'étude de Tolkien.
La traduction des noms propres du Seigneur des Anneaux, c'est ça ? Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme lecteur? Vous avez des lecteurs importants de Tolkien. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir les noms traduits en français, c'est ça? Voilà.
Alors moi, j'ai la chance d'être fils d'enseignants en anglais, et donc qui m'ont appris l'anglais très tôt, donc je l'ai lu en anglais, Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote à laquelle j'ai pensé en entendant Léo parler tout à l'heure. J'étais inscrit en licence d'anglais à la Sorbonne il y a quelques années, et si j'avais su qu'il y avait des profs à la Sorbonne avec qui j'aurais pu parler de Tolkien, je serais vachement moins bon au flipper aujourd'hui. Mais quant à la traduction, je sais qu'Alain pourrait répondre à cette question parce qu'il avait beaucoup réfléchi au sens, ne serait-ce que au sens des noms Bilbo et Frodo. Je sais qu'il m'en avait pas. Donc peut-être Alain, tu pourrais en parler.
Je peux en parler. Je pense que tout est une question, quand tu es en traduction, de feeling. Pourquoi ? Parce que certains noms peuvent être traduits, d'autres ne peuvent absolument pas l'être. Donc soit tu laisses une homogénéité sur tout le texte et tu décides de tout traduire, soit tu traduis rien. Alors en même temps, quand ce sont des noms avec une signification, tu dis oui mais il y a une perte. Ok, je pense que Braveheart, tout le monde a compris, il n'y a pas eu de perte. Ils n'ont pas appelé le film Cœur courageux, qui aurait été en plus ridicule. Alors que Braveheart, c'est quand même nettement plus important. Soit tu triches, soit tu acceptes uniquement l'homophonie ou la musicalité que tu peux trouver dans un nom, ce qui est très très suffisant. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, on va prendre le marché musical, que la musique anglo-saxonne est quand même celle qui domine le marché. 99% du temps, on chante des paroles, on les comprend absolument pas, mais on aime bien, on les chante. Et c'est quand on commence à les traduire, et c'est un jeu qu'on a de faire de la traduction instantanée de musique qu'on entend comme ça, qu'on se rend compte à quel point c'est débile. C'est aussi pitoyable que certaines chansons françaises. Donc, ce qui donne un sentiment peut-être de qualité ou de rythmique, c'est déjà le rise and fall au niveau de l'accentuation, c'est des choses qui sont très, très particulières, et tout simplement un petit côté exotique encore, ou un petit côté mystérieux dans le nom. Donc finalement, ça dépend réellement de l'ouvrage, ça dépend de l'auteur, ça dépend des implications, c'est-à-dire tant que tu n'as pas lu le bouquin jusqu'au bout, tu peux difficilement savoir si à un moment donné tu vas avoir un problème ou pas. Là, je suis actuellement en train de réfléchir sur une traduction où le roman s'appelle exactement comme Braveheart, sauf que ça s'appelle Ravenheart, donc cœur de corbeau, et j'ai un grave problème, c'est le nom du héros. Et je me dis, je l'appelle cœur de corbeau, il fait 1m90, il est musclé comme ça, je l'imagine pas s'appeler cœur de corbeau. En même temps, Raven, c'est pas un nom qui est super courant. Alors que Brave, ça va, c'est Brave. Et Art, on le voit tout le temps. Donc, c'est super difficile de faire un choix. Le seul truc, c'est qu'une fois que tu as fait ton choix, tu dois t'y appliquer du début jusqu'à la fin du roman. C'est tout. Moi, je suis contre les notes de bas de page. Sauf quand elles sont pour raconter une blague. Mais je suis contre les notes de bas de page de manière générale parce que c'est une cassure dans la lecture. Donc, tant pis, tu perds un degré. Peut-être parce que tu n'as pas les clés pour comprendre les noms, etc. Peut-être que c'est aussi tant mieux, parce que parfois c'est tellement évident ce qu'il y a dans les noms que ça en devient un peu bébête. Donc ça me dérange pas de voir les noms traduits ou pas traduits. Je pense que c'est chacun son feeling là-dessus. Et
un jour,
de toute façon, personne, on ne peut pas être content.
En ce qui concerne Tolkien, et il faut savoir qu'on dispose de plusieurs indications. D'une part, un guide qu'il a publié à destination des traducteurs à un moment où Le Seigneur des Anneaux commençait à être traduit dans différentes langues. Il a donné une liste de termes en expliquant, voilà, ça signifie ça, puisqu'il y avait toujours ces jeux avec l'histoire de la langue anglaise et ça n'était pas toujours identifiable. Vous avez vu l'explication de Tom Shippey sur Woodwoos tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'y pense pas d'emblée. Et il a spécifié que tous les termes qui ne figuraient pas dans cette liste devaient être gardés tels quels. Première chose. Deuxième chose, il faut toujours garder en tête que Le Seigneur des Anneaux est censé être une traduction en anglais moderne d'un texte source dans lequel il y a des langues opaques pour les personnes qui parlent le parler commun et des langues compréhensibles. Et l'idée est de transférer tout ce système linguistique en allemand ou en espagnol ou en français. Et personnellement, je trouve que les traductions de Francis Ledoux, les traductions des noms, que ce soit Foncombe, La Comté, sont plutôt de belles traductions. globalement. Maintenant, Tolkien, comme toujours, a été un peu contradictoire sur ce point. Mais j'ai envie de dire, on rejoint la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que si vraiment vous préférez les noms anglais, ce qui se conçoit tout à fait, dans ce cas-là, faites le saut et passez directement à l'anglais intégralement. C'est peut-être déjà le cas, mais actuellement, puis maintenant, les noms propres traduits en français par Francis Ledoux font partie du patrimoine. Donc, si une révision des transformations doit avoir lieu, elles doivent garder à 90% les noms propres tels qu'on les connaît actuellement. Grandpa, Foncombe, par exemple. J'espère que ça répond à votre question. Une autre question ?
Je voulais savoir s'il y avait, si on avait une idée de l'origine du personnage de Tom Bombadil.
Qui parle ?
C'est moi.
On ne voit pas.
C'est bon.
D'accord. D'accord.
Je voulais savoir si on avait une idée de l'origine du personnage de Tom Bombadil. Parce qu'en fait, on dirait qu'il est là depuis très longtemps et que personne ne sait pourquoi ni comment.
Pas particulièrement envie de répondre, mais je vais le faire. Enfin, ça va être une non-réponse. Depuis que Le Seigneur des Anneaux a été publié, les hypothèses se sont multipliées, et puis il y a quelques années, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire la liste des hypothèses. Il y en a plus de 30. Alors, je ne vais pas les passer en revue, mais la réponse simple, c'est on ne sait pas qui est Tom Bombadil, c'est ce que toujours... Tolkien a dit, c'est une énigme et je crois qu'il faut accepter l'énigme parce que sinon, enfin je vous dis, 30 hypothèses différentes, ça laisse rêveur.
Non, Michael n'avait pas spécialement envie de répondre parce que c'est vrai que c'est une question récurrente et qu'on fait à peu près toujours le même type de réponse. Tolkien ayant dit par exemple dans ses lettres que c'était aussi une incarnation de la campagne anglaise aux alentours d'Oxford qu'il aimait particulièrement.
Oui, j'allais dire que Tolkien lui-même n'était pas absolument certain de ce que Tom Bombadil devait représenter. Il était conscient du fait que c'était un des couacs qui n'était pas tout à fait parfait, parce qu'il s'est rendu compte plus tard que ce n'était pas tout à fait logique, que l'anneau ne fonctionnait pas sur lui, n'agissait pas sur lui. Mais il n'a pas trouvé une solution autre que de dire dans une de ses lettres que c'était une représentation de la campagne, de la nature.
Ça rejoint un petit peu, je pense, cette question rejoint un petit peu la question qu'on avait avant sur la traduction des noms propres. Moi, je pense que, bon, évidemment, c'est heureusement qu'il y a des analyses et des critiques, mais je pense qu'une fois qu'un roman est écrit, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, il appartient au lecteur. Il n'appartient plus à son auteur. Il appartient au l'auteur est propriétaire du roman jusqu'à ce qu'il ait écrit le mot fin et qu'il l'ait envoyé chez son éditeur. Et donc, tant mieux s'il y a 30 interprétations possibles de qui est Tom Bombadil, tant mieux s'il y a plusieurs interprétations des noms propres. Moi, je sais qu'un jour, Alain, il n'a pas voulu... Tout à l'heure, quand je lui ai donné la parole, enfin, quand je lui ai demandé de parler, je voulais qu'il en parle. Un jour, il m'a parlé d'une des hypothèses sur le nom Frodo. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais qui est une des 250 milliards d'hypothèses. Mais celle-là, elle me plaisait beaucoup parce qu'elle rejoint ce que je disais au tout début, tout à l'heure. En anglais, throw, qu'on a dans back and throw, dire vers l'avant, et throw do, qui fait vers l'avant, qui peut-être qui va de l'avant dans ma traduction, dans ma tête à moi, c'est... celui qui plonge vers l'avant, qui fait l'avant, qui fait le futur. Et donc cette idée de progrès que moi j'aime dans Tolkien, je l'entends dans Frodo. C'est mon interprétation que m'avait soufflé Alain, mais il y en a probablement des milliers d'autres, et c'est ça qui est intéressant, je crois.
Alors, sur le plan linguistique, ça n'a strictement rien à voir, mais je respecte entièrement votre droit en tant que lecteur de voir cette interprétation dans ce mot. Sur le plan linguistique, Frodo vient d'un terme en vieux norrois, Froda, qui est un personnage de la littérature norroise ancienne, et le sens du mot, c'est sagesse. Sagesse, et il est sage. Mais je ne nie pas du tout votre droit de voir une autre étymologie possible.
Merci. Une autre question ?
Bonsoir. Ça marche ? Ah, bonsoir. Vous avez tout à l'heure abordé la question, enfin pas la question, sur Tolkien qui avait créé toute la langue elfique, mais qu'en est-il de la langue des nains ?
C'est pareil, il a inventé cette langue également, mais il ne l'a pas aussi bien travaillée que l'elfique. son œuvre majeure en termes d'invention des langues, c'était l'elfique. Et les deux formes d'elfique, le Kenya et le Sindar. Les autres langues, il ne les a jamais aussi bien travaillées. Faute de temps, mais c'est sûr qu'il a inventé. La langue des elfes est proche du vieux norrois et s'écrit avec les runes germaniques. Mais ce n'est pas du vieux norrois, c'est une autre langue qu'il a inventée.
Une autre question devant ? Oui, allez-y, parlez, puis ça se déclenche au bout d'un moment.
D'accord. Bonsoir, donc, je voulais vous remercier tous pour vos interventions qui, à mon avis, ont été très très riches. Pour revenir sur les histoires de traduction, je voulais juste mentionner Shadowfax qui devient Gripoil, qui est une des traductions qui pose le plus de problèmes à beaucoup de personnes. Sinon, je voudrais poser une question en particulier aux trois personnes qui représentent la fantaisie française. Et je me demandais, quand vous parliez de représenter le réel à travers la fantaisie, de pouvoir parler de conflits réels peut-être en les déformant ou en les replaçant dans un monde irréel, si tout simplement la fantaisie, enfin tout simplement c'est peut-être si la fantaisie n'était pas devenue en fait un nouveau courant philosophique. Je sais que Tolkien s'en défendait, mais est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de penser philosophiquement face aux réalités du monde ?
Moi, je vais répondre ce que je pense moi. Hein, ça n'engage que moi. Je pense que y a dans la fantasy, pour la plupart d'entre nous, il y a la question de penser un monde, d'inventer un monde, et que on s'aperçoit rapidement que moi, ça m'a frappé quand j'ai vu les films, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais lu les romans, j'avais pas tout en souvenir, et j'étais frappé de voir que on avait à peu près un catalogue, un inventaire de toutes les situations, de tous les rapports de force ou d'amour ou d'allégeance ou toutes les formes de conflits. Ça ressemble un petit peu à un best-of de toutes les situations qu'on peut avoir. C'est pour ça que quand on nous pose après la question de savoir si on a été influencé par le Seigneur des Anneaux, oui, évidemment, et souvent on est embêté parce qu'on va nous sortir des trucs dans nos romans en nous disant ah, telle scène. Bon, on s'en est pas aperçu quand on l'a écrit, mais c'est pratiquement impossible d'y échapper. C'est-à-dire qu'on a, en écrivant une scène, on n'y pense pas, et puis après, quand on a terminé, quand le bouquin effectivement appartient au lecteur, on se dit ah bah oui, effectivement, ça ressemble trait pour trait à ce qu'il a écrit à telle page du Seigneur des Anneaux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça me paraît. Je ne pense pas que la fantaisie, notamment la fantaisie française, qui en est quand même assez balbutiement, puisse être considérée comme quelque chose de philosophique. Ce n'est pas encore assez développé. À mon sens, il n'y a pas encore eu vraiment d'œuvre majeure. Ça va peut-être venir. Ça dépend. Je ne sais pas si ça dépend de nous. Je ne pense pas, d'ailleurs. Mais bon. Il y a, dans Le Seigneur des Anneaux, on représente un monde, c'est un système qui est autosuffisant, qui est un espèce de... je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, y a une, c'est une somme, en fait, de toutes les... C'est une somme métaphysique, presque, de toutes les situations auxquelles on peut être confronté dans une vie en termes de conflits et d'archétypes. Enfin, ça va assez loin. Moi, il y a beaucoup de résonances jungiennes, notamment, enfin, de tous les gens qui ont travaillé sur les mythes aussi, Campbell, etc. Donc, dans cette mesure-là, je pense que oui, le Seigneur des Anneaux peut être considéré certainement comme, d'une certaine façon, une œuvre philosophique. La fantaisie, en règle générale, je pense qu'elle tend vers ça, mais qu'elle est encore loin d'y arriver dans la plupart des cycles qui ont été publiés.
Moi, je la considère plutôt comme un outil, en ce qui me concerne, la fantaisie. Alors après, pour faire de la philosophie, si on veut, mais je la considère vraiment comme un outil, et je pense que... à partir du moment où un auteur décide d'inscrire un roman dans un genre, c'est bien qu'il utilise un outil. Aujourd'hui, on le fait de plus en plus sciemment. On sait très bien que l'éditeur va écrire polar, va écrire science-fiction, va écrire fantasy, va écrire thriller, va écrire je ne sais pas quoi sur les couvertures de nos livres pour des raisons pratiques. On le sait très bien, mais donc on accepte ça, et on accepte de se servir de ce genre pour dire quelque chose. Donc je le vois plus comme un outil, moi. Je me suis rendu compte, je sais pas si, enfin Fabrice a écrit encore plus de romans que moi, mais moi, là j'en suis à mon sixième, et je commence maintenant, après six romans, à me rendre compte que finalement, je devrais pas vous le dire parce que c'est pas très vendeur, mais je dis quasiment toujours la même chose dans mes livres. En tout cas, il y a quelque chose... Je m'en étais pas rendu compte vraiment. Je m'en suis rendu compte un jour en parlant avec un journaliste. Je me suis rendu compte que il y avait vraiment au moins une chose qui était présente dans chacun de mes six romans sans que j'en ai vraiment conscience. Mais en tout cas, cette chose, je l'ai dite à chaque fois avec des moyens différents, des outils différents, et notamment la fantaisie qui est un des outils pour le faire et qui est un outil pratique, qui n'est peut-être pas le meilleur, qui n'est pas le seul, mais qui est un outil extrêmement pratique pour sa capacité d'abstraction, comme je disais tout à l'heure.
Qui sont dans un roman. C'est-à-dire que la fantaisie n'a pas pour but de penser la pensée. C'est un reflet. C'est un reflet de nous, d'une humanité, d'un passé également, de fait, par son décorum. Et donc, la philosophie qui peut s'en dégager, c'est uniquement celle que tu peux y percevoir. Je suis désolé, mais la seule réponse qu'on peut te donner, elle est portée par les vents.
Par le vent.
The answer, my friend.
Is blowing in the wind.
1, 2, 3, 4, oui. J'ai une question, je revenais juste sur l'écrivain qui joue au flipper. Vous avez abordé un petit point et je voudrais que madame réponde, et ça m'a un peu choqué comme on parlait du racisme chez Tolkien. Vous avez abordé le thème du féminisme et du rôle des femmes dans le livre. Enfin, j'ai l'impression que vous pensez que Tolkien dénigre un petit peu le rôle... Donc des femmes dans le bouquin, je sais pas trop, mais j'ai compris ça.
Non, pas tout à fait, mais pas tout à fait. Et évidemment, il y a des personnages féminins qui sont fabuleux dans Tolkien, et donc son respect des femmes, son amour des femmes est évident. Ceci dit, dans la compagnie, il n'y a pas une seule nana, quoi.
Bah, c'est ça, je voulais revenir là-dessus justement.
Donc les fausses, même si il y en a dehors et qu'elles ont un rôle et qu'elles sont action aussi, elles sont pas dans la compagnie. Donc elles sont pas guerrières. Comme le sont les hommes chez Tolkien. Mais bah, c'était pas un jugement. Hein.
Je voulais savoir qu'est-ce qu'on ressentait quand on était une femme, qu'on lit le bouquin, parce que c'est quand même majoritairement masculin, le Seigneur des Anneaux. Et quand on regarde bien la majorité des personnages, c'est pas des hommes au sens humain et masculin. La plupart, c'est soit des hobbits, sinon c'est des femmes très importantes, Éowyn, tout ça. Et ou sinon, bah, le peu d'hommes qu'il y a, ils ont, à part Aragorn, ils ont tous joué un rôle... qui était plutôt négatif, quoi, qui a plutôt été néfaste. Ils ont tous plus ou moins fait quelque chose de négatif. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'on ressentait quand on était une femme et qu'on lisait le bouquin.
En tant que femme à cette table, vous constatez déjà que le milieu de la fantasy et de la recherche universitaire est relativement masculin. Non, mais je ne sais pas si... moi, je trouve que le début du respect de la femme, c'est aussi de ne pas penser qu'il y a forcément une lecture qui est différente entre les sexes. Mais... merci. Ceci dit, c'est pas faire preuve d'irrespect vis-à-vis de Tolkien ou quoi que ce soit. Enfin, on peut être un tout petit peu critique vis-à-vis de cette œuvre. On l'aime tous, hein. On est là, on l'aime. Mais les rôles de femmes sont peut-être fabuleux dans l'imaginaire, dans ce qu'on peut en tirer, ou dans les illustrations graphiques, dans le film un tout petit peu. Mais dans le livre, oui, le rôle de la femme est relativement microscopique. Hein.
Alors, oui. Moi, j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Parce que là encore, je verrai l'influence de Beowulf, de la littérature ancienne germanique, qui est une littérature masculine. Il n'y a quasiment aucune femme dans la littérature germanique du début du Moyen-Âge. Il faut attendre Chrétien de Troyes et la littérature courtoise avant de voir la femme jouer un rôle important. Si Tolkien avait voulu il aurait pu construire un roman selon le modèle du 18e, 19e siècle, c'est-à-dire des histoires d'amour entre des hommes et des femmes. Ça, c'est le grand thème des romans des trois siècles derniers. Alors que c'est un thème qui n'intéressait presque pas les auteurs d'il y a 1000 ans. Et Tolkien a voulu construire son roman sur un modèle ancien, un modèle de société ancien, où la femme avait bien sûr une place, mais où c'est discret. C'est pas du tout anti-femme, c'est simplement que dans ce genre littéraire, la femme a une place discrète.
Alors, une dernière question. Quelqu'un avait levé la main tout à l'heure. Est-ce que c'était là ? Allez-y. Et puis on va être obligé d'arrêter, il est 6h30 et on a beaucoup travaillé.
1, 2, oui. Je voulais savoir si vous étiez au courant de la réédition du dictionnaire des langues elfiques qui était apparemment en cours de stock et je ne sais pas ce qu'il en est encore de... Il a dû sortir en Angleterre, mais je ne sais pas ce qu'il en est en France en fait.
Pas en Angleterre, non. Pas en Angleterre. Non. On attend, c'est une question qui est posée régulièrement et on attend. Mais vous le saurez, sur Internet, on parle toujours des nouvelles publications, en particulier sur jrvf.com, et vous serez au courant des sorties de nouveaux... Mais vous trouvez déjà sur Internet beaucoup de ressources, Didier Willis est toujours peut-être parmi nous, beaucoup de ressources sur les langues elfiques accessibles. Merci, Didier est caché là-bas. Didier Willis, qui s'occupe du site IsWayLoké, qui fait un travail absolument fantastique, j'utilise le terme fantastique. Voilà, et ça c'est disponible maintenant et mis à jour, ça a été mis à jour récemment, hein. Dragonflame version 2. Voilà, si c'est pas précis. Merci. Comme réponse. Ça.
Dernier point pour vous répondre, concerne les langues elfiques, mais ça n'est pas en français. Vient tout juste de sortir le 14e volume d'une revue américaine qui s'appelle Parmal d'Alamberon, où il y a, semble-t-il, la grammaire la plus complète du Quenya qui nous soit parvenue et qui date des années 20. Voilà.
Donc, avant de laisser la parole à Thierry Grillet pour conclure, clore cet après-midi, moi je tiens d'une part à vous remercier, d'autre part à vous inviter à continuer à aller voir cette exposition d'illustration de John Ho et Alan Lee. Voilà, à vous Thierry.
Non, simplement pour vous remercier tous d'avoir accepté notre invitation, de faire une place à Tolkien, c'était normal, après 50 ans, pour célébrer les 50 ans de la publication de ce roman, il était naturel que la Bibliothèque de France s'associe à tous les spécialistes pour vous inviter tous à cet hommage. Merci à tous, merci à vous.
Exposition qui serait prolongée, d'après nos informations, de quelques jours.
Peut-être.
Peut-être, voilà.